Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le livre Le cerf-volant de Laetitia Colombani aux éditions Grasset, nous retrouvons Léna, notre institutrice française, bien décidée à installer une école pour les enfants intouchables. L'une d'entre eux étant Lalita, l'enfant qui a permis de sauver Léna lorsqu'elle était en train de se noyer. Mais Marie et James, qui s'occupent de Lalita et la font travailler au Daba, ne veulent pas le lui permettre. Quant à Léna, c'est à cause de Lolita, justement, qu'elle a décidé de créer cette école pour les enfants intouchables. Et elle n'envisage pas d'ouvrir cette école sans elle. Comment donc résoudre ce problème? À qui faire appel? Ou qui sera responsable du choix final? Reprenons notre lecture pour le savoir. Chapitre 15. Comme chaque matin, Léna descend sur la plage retrouver Lalita. Mais aujourd'hui, elle ne la voit pas. La petite fille est d'ordinaire la première arrivée. Elle s'assoit sur le sable et s'applique à remplir son carnet en attendant Léna. Celle-ci scrute les environs à la recherche de la frêle silhouette, invariablement vêtue d'une paire de leggings et d'une robe mal ajustée. Des pêcheurs s'activent à démêler leurs filets, des aigles de mer rôdent çà et là, espérant glaner quelques restes du poisson que les femmes recueillent et vont vendre au marché. Léna poursuit son exploration sans succès. Aucune fillette à l'horizon. Elle décide de pousser jusqu'au Daba. Et là, elle trouve porte close. Un fait inhabituel. Inquiète, elle frappe à la porte. Pas de réponse. Elle s'entête, insiste, jusqu'à ce que Marie surgisse, vêtue de son traditionnel tablier. Dans quelques mots de tamoul mal assurés, elle demande à voir Lalita et se reprend aussitôt. Ici, personne ne la nomme ainsi. Pour tous, elle s'appelle Holly. Impavide, Marie secoue la tête avant de lui fermer la porte au nez. Perplexe, Léna décide de patienter jusqu'au retour de James parti à la pêche. Il ne tarde pas à rentrer, chargé d'un cageot de poisson, et s'assombrit en la voyant. À grands gestes, il lui fait signe de s'en aller. Il se met à vociférer des phrases dont Léna ne saisit pas le détail, mais dont elle comprend l'essentiel. Holly ne sortira pas, et elle-même n'est plus la bienvenue au Daba. Sous le choc, Léna appelle Pretty, qui saute sur son scooter et la rejoint au plus vite. Elle tente d'intercéder à son tour auprès de James, qui se montre de plus en plus irrité. « Depuis qu'Oli apprend à lire, dit-il, elle ne fait plus rien au restaurant. Elle passe son temps dans les livres. Elle part des heures entières et ne rentre qu'à la nuit. Personne ne sait où elle est, ni ce qu'elle fait. » Il ajoute que la gosse a changé et commence à lui tenir tête. « Ça suffit !» conclut-il. « Les leçons sont terminées !» Léna ne sait comment réagir. Elle sent qu'il n'est pas judicieux d'attaquer James frontalement. Il a toute autorité sur Holly. Elle préfère adopter une autre stratégie. « La petite est douée, dit-elle. Elle a de grandes capacités. » Elle évoque l'école qu'elle est en train de créer, un établissement entièrement gratuit qui pourrait l'accueillir. Mais James secoue la tête. Holly ne mettra pas un pied là-bas. Il n'en voit pas l'intérêt. De toute façon, il n'a pas les moyens d'engager un employé pour la remplacer au dabat. Les cours auront lieu le matin, insiste Léna, jusqu'en début d'après-midi. Elle sera là le soir et le week-end. Rien n'y fait. James est inébranlable. Une fille n'a pas besoin d'être éduquée, répète-t-il d'un air buté. Comprenant que la discussion mène à une impasse, Léna tente d'y impliquer Marie, espérant qu'une femme aura un point de vue différent sur la question. Elle ne tarde pas à déchanter. Marie refuse de prendre parti et se terre dans sa cuisine. Elle n'a pas d'opinion autre que celle de son mari. Elle lui est soumise et n'a visiblement ni le courage ni l'envie de s'opposer à lui. Elle est de celles qui, résignées, voient se perpétuer les mêmes violences et les mêmes injustices de génération en génération sans protester. Léna regagne le QG, accablée. Elle a foncé tête baissée dans l'aventure sans prendre la plus élémentaire des précautions. S'assurer que les familles inscriraient leurs enfants à l'école. Combien seront-ils à partager la vie de James? Si tous ne sont pas aussi bornés, elle se heurte de plein fouet. À cette réalité, le travail des petits représente un revenu dont la plupart des parents du village ne pourront pas se passer. Priti évoque alors Kamaraj, l'ancien président du Tamil Nadu, qui a œuvré en son temps pour l'éducation des classes défavorisées en promettant qu'à l'école, chaque élève serait nourri gracieusement. « Free meal !» tel était son credo, le meilleur des slogans. Il s'est révélé convaincant. Hélas, il n'est pas arrivé jusqu'ici, dans ce faubourg pauvre où les enfants demeurent illettrés et souvent affamés. Léna reprend l'idée à son compte. Et si cela ne suffit pas, elle doublera la mise, promettra des sacs de riz pour compenser le manque à gagner des familles. Elle ira aussi loin qu'il le faut. Elle est prête à toutes les audaces, à toutes les tractations, si incongrues soient-elles. Du riz contre des écoliers? La négociation a de quoi surprendre. Elle en convient. Qu'importe, dans son combat, la fin justifie les moyens. Dès le lendemain, elle revient à la charge auprès de James. Furieux de la retrouver à nouveau devant sa porte, il lui répond d'un ton exaspéré « Ce n'est pas du riz qu'il a besoin, mais de main-d'œuvre bon marché. » Léna s'entête. « L'école est obligatoire, clame-t-elle. Le travail des enfants est interdit par la loi. C'est la loi !» James se redresse de toute sa hauteur et la toise avec mépris. « Qui est-elle ? Pour venir lui donner des leçons. Sait-elle ce qu'ils endurent ici? Il a perdu 2 fils en mer et va pourtant pêcher chaque matin, malgré le danger, pour faire vivre sa famille. Holly travaille peut-être, mais elle ne manque de rien. Quant à la loi, il s'en moque bien. Ce n'est pas elle qui les nourrit. À ces mots, il chasse Léna du restaurant. Qu'elle retourne donc dans son pays. En retrouvant Priti, Léna s'effondre. Elle a tout essayé, mais se heurte à un mur. Il est impensable d'ouvrir l'école sans Lalita. Elle est la raison d'être de ce projet. Léna s'en veut de faillir maintenant. Elle a couru un marathon et voilà qu'elle tombe à quelques mètres de la ligne d'arrivée. En la voyant si abattue, Priti a une idée. Elle propose d'organiser une expédition musclée de la brigade au Daba, Assurément, la mise à sac du restaurant réglerait le problème. Et si cela ne suffit pas, elle s'occupera de James personnellement. Il ne lui fait pas peur. Pour preuve de sa bravoure, elle exhibe ses cicatrices, vestiges de ses nombreuses missions sous les yeux de Lena sidérée. Là, sur l'épaule gauche, un coup de couteau reçu en tentant de s'interposer entre un agresseur et sa jeune victime. Ici, sur la cuisse, la marque d'une matraque violemment assénée par un policier alors même que Pretty défendait une femme en train de se faire molester. Sur le bras droit, une trace de morsure. On peut encore distinguer l'empreinte des deux incisives du fou qui s'est jeté sur elle. Comme Pretty essayait de le maîtriser après le viol d'une pauvre gamine. C'est impressionnant. Lena le concède. Mais saccager le dabat n'est pas une option. Et frapper James encore moins. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Privé de revenus, le couple se retrouvera à la rue ainsi que Lalita. Lena refuse l'usage de la force. Elle est peut-être le seul recours dans les cas d'urgence que décrit Pretty, mais pas ici. La violence est toujours un échec, dit-elle. L'école ne peut être bâtie sur de telles fondations. En désespoir de cause, elle décide de se rendre au commissariat le plus proche pour déposer une plainte. La démarche lui pèse, mais elle ne voit pas d'autre solution. Elle pénètre dans un bâtiment si délabré qu'on le croirait voué à la démolition. À l'intérieur, une foule agitée se presse en direction d'un unique guichet où se tient un agent bedonnant à l'œil vide et indifférent. Autour de lui se bousculent des mendiants arrêtés pour vol, deux hommes qui s'insultent bruyamment, un conducteur de rickshaw effondré désignant son véhicule démantelé devant l'entrée, un vieil homme hagard, deux touristes hollandais à qui l'on a dérobé leur passeport, ainsi qu'une gypsy vitupérant contre un groupe de Hira qu'elle accuse de lui avoir jeté un sort. Lena patiente des heures pour se voir finalement dirigée vers un petit bureau encombré de papiers, où siège un officier en train de chiquer du bétel. Tout en prenant sa déposition d'un air blasé, l'homme saisit à intervalles réguliers une corbeille posée à ses pieds pour y lâcher des glaires rouges sang. Le cœur au bord des lèvres, Lena le regarde taper le document, y a posé un coup de tampon, puis le glisser dans un tiroir dont elle devine, consternée, qu'il ne ressortira jamais. En arrivant au QG le lendemain, elle trouve James hors de lui au milieu du chantier, en pleine altercation avec Pretty. Il déverse sur la jeune femme un flot d'insultes en la menaçant du poing. Autour d'eux, les travaux se sont arrêtés. Les filles de la brigade entourent leur leader qui, loin d'être intimidé, hurle aussi fort que lui. Lena s'interpose aussitôt. Le dabat a été pris pour cible, crie James. Des vitres ont été brisées dans la nuit. Il est convaincu que c'est un coup de Pretty. Des voisins affirment avoir aperçu des silhouettes rouges et noires dans la rue, juste après le méfait. La chef ne cherche pas à démentir. Déchaînée, elle répond sur le même ton, le traitant tour à tour d'exploiteur d'enfants, d'opportuniste et de lâche. Comprenant que Pretty a mis son projet à exécution alors qu'elle s'y était opposée, Lena la foudroie du regard. Elle lui demande de s'écarter, de la laisser régler le différend. Elle propose à James d'aller s'asseoir dans le garage pour parler posément et négocier. Elle paiera la réfection des vitres cassées, annonce-t-elle. En ce qui concerne Holly, elle a un marché à lui proposer. Elle est prête à l'aider financièrement afin de lui permettre de recruter un employé au restaurant. En échange, James doit promettre de laisser la fillette se rendre à l'école et étudier. À l'évocation de l'argent, l'homme s'adoucit miraculeusement. Il devint même très coopératif. En son fort intérieur, Lena répugne à cette manœuvre, mais elle se console en songeant qu'elle offrira du travail à quelqu'un. Depuis qu'elle vit ici, elle a appris à mettre de côté ses scrupules et ses préjugés. Un terrain d'entente est finalement trouvé. Après une longue discussion sur le montant de la subvention accordée, lorsque James quitte le garage, il paraît satisfait. Lena le regarde s'éloigner, épuisée mais heureuse de cette victoire arrachée de haute lutte. Peu importe ce que lui coûte ce compromis, l'avenir de Lalita est à ce prix. Le soir, en lieu et place du thé, une dispute anime le garage. Lena est furieuse que Pretty ait agi dans son dos. De son côté, la chef réprouve son attitude et l'accord conclu avec James. « L'argent ne suffit pas toujours à régler les problèmes », affirme-t-elle. « On ne peut pas tout acheter !» Et puis, elle ne fait pas confiance au tenancier. « Il est fourbe, plus sournois qu'un serpent. À choisir, elle préfère encore les cobras. Avec eux, on sait au moins d'où vient le danger. » Lena connaît Pretty et son caractère hautement inflammable. La colère qui l'anime est un formidable réservoir d'énergie pour les actions de la brigade, mais elle peut aussi se retourner contre elle. « L'impulsivité est mauvaise conseillère », lui dit-elle. À l'avenir, Lena ne veut plus de débordements, plus de vitres cassées, plus de missions la nuit. Elles doivent œuvrer en bonne intelligence et en toute confiance. Si elles n'ont pas la même façon d'appréhender les conflits, il leur faut s'accorder et réfléchir avant d'agir. Il en va de la réussite de leur projet comme de leur amitié. Pretty grommelle en soupirant qu'elle est désolée avant d'allumer le réchaud et de sortir les gobelets pour le thé. Après 3 tasses de chai brûlant en signe de réconciliation, Lena se retrouve seule. A-t-elle pris la bonne décision? Face à Pretty, elle n'a pas voulu baisser la garde, mais au fond, elle doute. Elle sait bien qu'il n'y a pas de noblesse à acheter l'avenir d'un enfant, à soumettre par l'argent un villageois infortuné. A-t-elle le choix pourtant? Tu comptes faire ça pour tous les gosses du quartier? Lui a lancé Pretty, la poussant dans ses retranchements. « T'auras jamais les moyens », a-t-elle ajouté. Elle a raison, évidemment. Lena ne prétend pas détenir la vérité. Elle navigue à vue, en s'efforçant d'éviter les obstacles et les dangers. Le lendemain, elle va retrouver Lalita au Daba. La petite est assise dans un coin, seule avec sa poupée, penchée sur son carnet. Lorsqu'elle l'aperçoit, elle se lève et vient se jeter dans ses bras. À cet instant, Lena se sent rassérénée. Ses doutes s'effacent. Dans quelques mois, la fillette entrera à l'école. Ses chaînes seront brisées et le vœu de sa mère, enfin exaucé. Thank you. Chapitre 16. Il se présente un matin à la porte du garage. Il a les traits fins, le regard perçant, les cheveux noirs et bouclés. Il a appris que Léna recherchait un instituteur pour la future école et voudrait postuler. Léna s'étonne. Ses démarches se sont heurtées à tant d'obstacles qu'elle ne s'attendait pas à une candidature spontanée. Elle invite le jeune homme à entrer dans la salle en travaux en lui recommandant de prendre garde aux murs fraîchement enduits de chaux. Dehors, la brigade s'entraîne près du banian, dans la cour à présent déblayée. Sous le regard de Priti, les filles s'emploient à répéter une prise du Nisha Trakala qu'elles viennent de leur montrer. Léna invite l'inconnu à s'asseoir sur le charpoy et prend place face à lui. L'homme doit avoir 22 ou 23 ans, tout au plus. Originaire d'un faubourg voisin, il vient d'obtenir son diplôme à l'université de Chennai, explique-t-il. Il s'appelle Kumar. En tamoul, le mot veut dire « prince », mais de noble, il n'a que le nom. Issu d'un mariage mixte, il est né d'un père dalit, intouchable donc, et d'une mère brahmane. Un mélange insolite, songe Léna, voire impensable, dans un pays où les unions intercastes sont interdites, parfois même punies de mort. On ne compte plus les crimes d'honneur perpétrés par les familles de castes dites supérieures, dont certaines préfèrent assassiner leur enfant plutôt que d'accepter un mariage jugé déshonorant. Tous se souviennent ici de la tragique histoire de ce couple d'étudiants largement relatée par les médias. Ils avaient décidé de fuir pour vivre librement leur amour lorsque 5 individus à moto, armés de sabres et de couteaux, les ont rattrapés. Le jeune homme a succombé à ses blessures tandis que sa promise, gravement touchée, a pu être sauvée. L'enquête a révélé que l'agression avait été commanditée par le père de cette dernière. Condamné en première instance, il a finalement été acquitté. Quant à la fille, elle reste placée sous protection policière. Cette histoire n'est pas rare. Celle de Kumar l'est davantage. Ses parents n'ont pas eu à craindre pour leur vie, mais sa mère a été rejetée par ses proches et par sa communauté. Elle n'a plus de contact avec eux depuis presque 30 ans. C'est ainsi, on ne trahit pas impunément sa caste. On ne sort pas de son rang. Aujourd'hui, Kumar souhaite revenir dans le village où il est né et offrir aux enfants ce dont il a lui-même profité, une solide éducation et une chance de s'élever. Léna est touchée par le discours du jeune homme qui semble présenter toutes les compétences requises. Sympathique, clairvoyant, il parle un anglais courant, il allie une connaissance du statut des intouchables à la volonté de transmettre le savoir que les hautes castes se sont appliquées durant des siècles à cultiver et jalousement garder. Son parcours est exemplaire, une scolarité sans heurts assortie de brillants résultats. De l'extérieur, tout est parfait. Un jour pourtant, il racontera les brimades qu'il a subies en primaire, au collège, au lycée, jusqu'à l'université. Aux enfants hindous échoit la caste du père. Pour son malheur, Kumar est donc un dalit, considéré comme tel par la société, même si la moitié de son sang est brahmane. N'appartenant pleinement à aucune de ces deux communautés, il se sent souvent étranger dans son propre pays. Son métissage est un héritage lourd à porter. De la cour, Priti les observe par la fenêtre ouverte, intrigué. Tout en suivant d'un œil distrait l'entraînement des filles, elle semble se demander qui est l'inconnu auquel Léna accorde un si long entretien. Au prétexte de venir chercher son dupatta, elle pénètre dans la salle, l'heure de rien. Léna lui présente Kumar, qui s'apprête à prendre congé. Méfiante comme toujours, Priti le scrute de la tête aux pieds. Elle ne lui tend pas la main. Ici, les hommes et les femmes n'ont pas pour habitude de se toucher. Elle détaille son visage, la finesse de ses traits. Sa peau n'est pas brune comme celle des gens du coin. La clarté de son teint trahit un mélange, une origine plus élevée. Ici, la couleur est le marqueur de la classe sociale. Alors que les acteurs bollywoodiens sont pâles, quasi semblables aux occidentaux, les Dalits ont généralement la peau foncée. Ils n'échangent pas un mot. Ils restent là, à se dévisager, se jauger, dans un silence qu'aucun des deux ne se hasarde à briser. Kumar finit par remercier Léna avant de tourner les talons et de quitter le QG. Le soir, à l'heure du thé, Léna se montre enjouée. Le jeune homme a un parcours sans faute, un profil singulier. Elle n'a passé qu'une heure avec lui, mais elle le sent. Il a la fibre d'un bon professeur. Elle parle d'expérience. De ses années passées, elle a appris à distinguer ceux qui choisissent cette voie par défaut, se passionnant pour une matière qui n'offre pas d'autres débouchés ou cherchant simplement la stabilité d'un emploi, de ceux qui désirent profondément enseigner. Kumar est de cela, elle pourrait le jurer. Priti ne partage pas son enthousiasme. « Il est certainement compétent, dit-elle, mais elle connaît ce genre de type. Dès qu'une meilleure opportunité se présentera, il n'hésitera pas à les laisser tomber. Ainsi sont les brahmanes, arrogants, ambitieux, conscients d'appartenir à une élite et soucieux de leurs intérêts. L'école essuiera les plâtres de son inexpérience, tout en lui servant de tremplin. Il se formera sur le terrain auprès des enfants, avant de briguer un poste plus attrayant et mieux rémunéré. » Elle ne croit ni à son discours, ni à sa motivation. Il sonne faux. Le portrait est trop beau pour être vrai. Léna la trouve injuste et péremptoire. Elle comprend la défiance à l'égard des brahmanes, mais Kumar ne vient pas d'un milieu aisé. Il n'a bénéficié d'aucun privilège. Sa naissance et ses origines ne l'ont pas aidé. Comme tant d'autres, il a connu la discrimination et le rejet. Des coups, il en a pris et a décidé d'y répondre non par le combat physique, mais par celui de l'esprit. Rappelant que la ségrégation fonctionne à double sens, Léna se demande de quel droit elle lui interdirait d'enseigner à l'école. Au nom de quelle tradition, de quelle caste, de quelle couleur de peau? Priti serait-elle devenue l'un de ces censeurs qu'elle prétend condamner? Et puis, comme elle l'avait elle-même prédit, les candidats ne se sont pas bousculés. Léna a trouvé plus d'écoute auprès des associations étrangères que du corps professoral indien. Le constat est sans appel. La société n'est pas prête d'évoluer. Tous ici se moquent des enfants dalits. Elle est d'autant plus convaincue que l'instituteur de l'école doit venir de cette communauté même. Le changement opérera de l'intérieur. Il ne peut en être autrement. De cette petite révolution, Léna se veut le simple vecteur, l'artisan discret. Elle se voit, telle la main de l'horloger, se retirant après des heures de travail pour laisser le mécanisme fonctionner. De ce rouage, Kumar est l'une des pièces. Il a sa place dans ce projet. Malgré les réticences de Priti, Léna est prête à assumer son choix. L'avenir se chargera de dire si elle a eu raison. Elle veut garder son cap, rester fidèle à ses convictions. Dans cette entreprise inédite, son instinct est sa seule boussole, son unique allié. Elle n'a nulle autre certitude que celle-ci. Il faut croire que tout est possible et continuer à avancer. Chapitre 17. Enfin, les travaux sont menés à terme. Au fond de la cour, dans un appendice du garage envahi de ronces, jonché de vieux outils et de jerrycans oubliés, Léna décide d'établir ses quartiers. Elle en a assez des chambres d'hôtel, des locations meublées. Elle préfère vivre ici, à côté de l'école, au cœur de ce faubourg fleuri, son projet. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Quelques mètres carrés tout au plus pour y placer un lit, une table, une malle en fer où ranger ses vêtements, comme chacun le fait ici. Une autre pièce est aménagée à l'attention de Priti, qui dormait jusqu'alors dans la salle d'entraînement. Celle-ci se dit émue à l'idée de posséder une chambre pour la première fois de sa vie. Enfant, elle partageait une cahute exiguë avec ses parents et ses frères et sœurs. Dans le foyer où elle s'est réfugiée, elles étaient une trentaine à s'entasser dans le dortoir. À 22 ans, elle a enfin un espace bien à elle. Cette idée l'emplit d'aise et de fierté. Pour toute décoration, elle y accroche le portrait d'Oucha, qui ornait jadis le QG. C'est là sa seule possession. L'ensemble de ses affaires tient dans un simple sac en toile qu'elle n'a pas grand mal à déménager. Léna, pour sa part, s'entoure de quelques livres, d'un poste de radio et d'un ordinateur portable doté d'une connexion Internet miraculeusement bricolée par une des filles de la brigade. Malgré les caprices du réseau indien, qui se révèlent des plus hasardeux, elle dispose d'un accès à ses mails, indispensable outil pour la collecte de fonds dans laquelle elle s'est lancée. Enfin, elle place au mur cette photo de François qu'elle aime tant, unique témoignage visible de sa vie passée. On l'y voit sur un bateau, souriant en Bretagne, la mer en arrière-plan. C'est ainsi que Léna veut se souvenir de lui, un homme heureux et libre, voguant vers le large par un jour de printemps. Dans l'ancien réduit du garage, des toilettes et une douche sont aménagées, près d'un petit espace dédié à la cuisine. Rien de luxueux, mais le nécessaire est là. Dans le village, la plupart des habitants n'ont pas accès à l'eau courante. Certains vont se baigner dans l'étang voisin, d'autres s'installent près du puits pour se laver tout habillés. La première fois que Léna les voit faire, elle marque un temps d'arrêt. Elle les observe discrètement enduire leur peau de savon sous leurs vêtements avant de se rincer. « Une question d'habitude, lui dit Priti, qui procédait jadis ainsi. » Aider des gamins du quartier, les filles entreprennent de peindre les pneus usés pour équiper la cour d'un terrain de jeu. L'un d'eux servira de siège à la balançoire que Léna prévoit d'accrocher au banian. Une balançoire, c'est important, dit-elle. Elle veut croire que l'accessoire est essentiel. Elle y voit un symbole, celui de l'espoir, de la liberté retrouvée. L'escarpolette est comme le cerf-volant, songe-t-elle. Elle part du sol pour monter dans les airs, défiant les lois de la gravité. Il en sera de même de ses enfants, nés dans la misère, qui s'élèveront pour l'éducation. Cette pensée l'accompagne et la guide dans son parcours du combattant, dans sa lutte contre les fonctionnaires véreux et les serpents, dans ses interminables démarches auprès de l'administration, dans ses voyages entre l'Inde et la France qu'elle multiplie pour récolter des fonds. Travaillant sans relâche, elle a lancé des appels auprès des associations qu'elle connaît, des entreprises, des fondations, n'hésitant pas à solliciter son réseau d'amis et de relations. Si certains se montrent inquiets de la voir s'engager dans ce projet, la plupart sont heureux de l'aider. Ses anciens collègues décident d'organiser dans leurs établissements des collectes de matériel, de crayons, de cahiers, de tubes de peinture, de feuilles, de fournitures qui lui envoient par cartons entiers et qu'elle déballe avec une joie et un plaisir immenses. Elle retrouve avec bonheur l'odeur du papier neuf et des protège-cahiers, cette odeur artificielle et synthétique dont elle se délecte pourtant, telle une Madeleine de Proust qui la renvoie à ses plus belles années. Au marché, elle fait l'acquisition de rouleaux de tissu dans lesquels les filles se chargent de tailler les uniformes. « On ne sait pas lire, mais on sait coudre !» lui lance l'une d'elles avec humour en tamoul. Léna sourit. Elle comprend de mieux en mieux, saisit maintenant des phrases entières dans les conversations que Priti ne manque pas d'entretenir chaque jour à l'heure du thé, en professeur zélé. Sur les murs de l'école, Lalita et les enfants du quartier ont peint de grands mandalas, dont on dit ici qu'ils ne sont pas de simples dessins, mais possèdent des pouvoirs, comme celui d'aider à trouver l'harmonie et la paix. Certains prétendent qu'ils permettent d'apprivoiser ses peurs. Et Léna espère qu'ils disent vrai. Elle a appris à reconnaître ces kolams que les femmes tracent sur le sol devant leur maison. Dès le point du jour à la poudre de riz, selon une antique tradition du sud de l'Inde, formée de points savamment disposés à intervalles réguliers et de lignes courbes qui les relient, leur fragile création s'estompe au fil des heures sous les pieds des passants, les roues des voitures ou les bourrasques de vent. Un art de l'éphémère qui le rend d'autant plus fascinant. Lalita se plaît à exécuter cet exercice aussi délicat qu'élégant. Chaque matin, elle dessine devant la porte de l'école un motif différent. Si Léna n'aime pas la voir ainsi courbée, penchée sur le sol, elle ne tarde pas à lui reconnaître un réel talent. Elle y voit aussi une forme de philosophie. Œuvre fugace et temporaire, le kolam naît de la poussière et redevient poussière, rappelant à chacun que de ses tableaux, nous partageons le même dessin. L'école est bientôt prête à fonctionner, mais pour cela, il faut des enseignants. Et Kumar sera le premier à se présenter et il sera pris. Léna est prête à lui faire confiance. Priti n'étant pas tout à fait convaincue, elle le sera par la suite. Dans notre prochaine lecture, nous assisterons à l'ouverture de l'école. N'oubliez pas de nous suivre sur notre émission « Je lis pour vous ». Radio Alliance Plus, 103.2 FM ou DAB+, à moins que vous ne préfériez écouter la brève de « Je lis pour vous », le samedi à 7h45, lecture et signification de citations ou de dictons. Sur www.radioallianceplus.fr. À bientôt, chers auditeurs.